Devant la prolifération toute relative de la correspondance chiffrée et les multiples services de police ou d'inquisition qui s'en inquiètent, le Moyen-Âge voit poindre un nouveau métier très spécifique. La demande vient de clients prestigieux et très puissants, comme le roi, la police secrète, l'inquisition, l'église, la noblesse, ou de très riches marchands qui soupçonnent l'infidélité de leurs femmes. Ainsi naquit le métier de décrypteur, celui qui décrypte les messages chiffrés. Des petits jobs qui travaillent par l'occasion et qui n'avaient que très peu de spécialistes. Tel le frère Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose, ils s'y sont mis, titillés par le mystère et ayant à la fois la curiosité et la connaissance des lettres. Bien souvent confrontés à un simple code de substitution alphabétique, manière code de César ou le carré de Polybe, ces artisans utilisent empiriquement des attaques par répartition statistique des lettres ou des attaques par dictionnaire. Si ce n'est une simple opération géométrique comme la bonne vieille systale, le fameux bâton de Plutarque. Le travail des décrypteurs est bien loin des travaux de Champollion en termes de difficulté. Mais face à eux, le code de César va connaître plusieurs évolutions. D'abord, le décodage par index tournant, où le nombre de lettres dans l'alphabet à faire bouger pour chaque lettre n'est plus constant. Ensuite, l'ajout de symboles complémentaires pour éviter que certaines lettres ne soient trop facilement devinables, telles que le E, le R et le N, qui sont les lettres les plus courantes en langue française. Une lettre en clair peut être substituée par différents symboles qu'on peut qualifier d'homoglyphes, un ajout spécifique d'entropie qui est parfois étendu à des syllabes. Et après, l'usage d'abréviations, voire l'usage de symboles pour remplacer un terme fréquent. Et enfin, le mélange de langues, souvent dans les mêmes phrases, comme l'occitan avec le latin. On a parfois de réelles innovations, comme l'alphabet bilitère de Francis Bacon, une évolution du carré de Polybe qui encode chaque lettre en 5 symboles, usuellement notés A et B. Ces symboles étaient stéganographiés dans un message anodin, par exemple les lettres droites signifient un A et celles en italique un B. Aujourd'hui on dirait 0 et 1, car Francis Bacon a inventé sans le savoir le premier jeu de caractères dans une représentation binaire. Une curiosité qui fut saluée par William et Elizabeth Friedman, un célèbre couple de cryptographes américains qui y firent mention tout au long de leur vie et même sur leur pierre tombale. Mais revenons au Moyen-Âge. Le labeur du casseur de code se fait aléatoirement, souvent en solitaire, et à côté d'une autre activité pécuniairement moins aléatoire, car le résultat est loin d'être garanti face à ces améliorations. En l'absence de suffisamment de documents chiffrés avec le code à casser, le chemin est d'autant plus difficile pour le décrypteur. Les outils mathématiques sont très souvent ignorés, et de toute façon encore simples, le calcul scientifique n'arrivera que plus tard, comme le calcul statistique. Les méthodes sont encore frustres. Les opérations de chiffrement en déchiffrement se font avec des outils simples, le parchemin, la plume d'oie, et beaucoup de sueur au front. Et même en connaissant le code, les opérations restent très laborieuses si on n'a pas les moyens, comme Henri II de France, de faire construire une superbe boîte à chiffrer, utilisant un mécanisme pour montrer les lettres substituantes. On reste sur de l'artisanal pur. Les évolutions les plus importantes se feront dans le domaine militaire, diplomatique et l'espionnage, comme les règles à chiffrer, l'usage de clés jetables et l'usage d'infrastructures de communication publique. Au XXe siècle, des innovations radicales feront changer les pratiques.